VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Nigeria, les leaders de la région du Delta du Niger doivent aider à pacifier leur territoire. C'est ce qu'a fait savoir le président nigérien Muhammadu Buhari. Les précisions de Michel Joseph.
La multiplication des attaques par des militants réclamant une plus grande part des revenus pétroliers a fait chuter la production pétrolière nigériane à son niveau le plus bas des dernières années. Recevant jeudi à Abuja une délégation de leaders du Delta du Niger, le président Buhari les a appelés à œuvrer de concert avec les autres responsables pour pacifier la région. Le chef de l'État a demandé le plus de renseignements possibles sur la situation. Nous entendons reconstruire ce pays. Il a connu beaucoup de dommages, a-t-il déclaré, exhortant les leaders du Delta du Niger à dire à leurs administrés d'être patients.
Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a fait le point sur l'avancée des enquêtes sur les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou le 15 janvier dernier. À la suite des interpellations effectuées, 10 suspects sérieux sont entre les mains de la gendarmerie et 3 des 10 présentent un intérêt commun avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une trentaine de morts, les Burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouedraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations.
Par rapport aux 3 dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capuchino, et qui servait à transporter les djihadistes mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Maintenant, les 2 femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente, donc ça fait 3 femmes.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le 3e vice-président du mouvement anti-esclavagiste, Ira Mauritani, Job Abadou Tidiane, a été arrêté mercredi soir à Nouakchott. C'est ce qu'a dit à VOA Afrique Biram Da Abeid, le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, qui dénonce plusieurs arrestations et aussi des violences policières lors d'une opération d'éguerpissage ce même mercredi dans la capitale mauritanienne. Tout juste sorti de prison le mois dernier, Biram Da Abeid est actuellement aux États-Unis, où le secrétaire d'État américain John Kerry lui a remis un prix à Washington. Chaque année, le département d'État rend ainsi hommage à des personnes qui ont consacré leur vie à la lutte contre la traite des êtres humains. Nathalie Barge a tendu son micro à Biram Da Abeid.
Je dénonce sur vos antennes la violence indicible qui s'est abattue sur un groupement, un bidonville constitué de Hratin et de Noirs, en majorité des femmes et des enfants qui ont été la cible d'une attaque très violente des différents ordres militaires en Mauritanie, que ce soit la gendarmerie, la garde nationale ou la police nationale. Beaucoup de femmes, d'enfants, ont été violentées de manière extrême. Il y a eu des arrestations, des tabassages, de la torture, des violences, et je dénonce l'arrestation du vice-président de l'Ira, Amadou Tidiane Diop, et des autres militants de l'Ira, arrêtés dans ces conditions, conduits de chez eux vers des destinations inconnues et auxquelles les parents et les amis n'ont pas de nouvelles depuis.
On a encore donc des militants de l'Ira qui sont emprisonnés.
Il y a une série d'arrestations au sein des rangs de l'Ira et une répression violente qui s'est abattue sur beaucoup de militants d'Ira, mais aussi des personnes humbles qui ne voulaient pas être déguerpies de leur lieu d'habitation sur lequel ils ont passé 20 ans. Je voudrais encore, sur la violence et l'oppression faite aux femmes, parler d'un cas ou deux, d'un Barkhamet Essatin qui est victime d'esclavage, qui est né esclave, propriété d'un homme, qui a commencé à la violer, qui l'a séparée avec sa mère dès l'âge de 5 ans, qui a commencé à la violer dès l'âge de 10 ans, qui lui a donné 2 enfants dans le cadre de ce viol. Et après, le fils de ce même homme a commencé à la violer, parce qu'elle a eu aussi un enfant avec lui. Toutes des filles. Et cette femme qui est meurtrie dans son corps, dans son âme, nous l'avons aidée à se libérer. On a porté plainte, mais les autorités supérieures en Mauritanie refusent d'atteindre cet homme car il a des liens familiaux avec les hautes autorités de l'État. C'est un homme d'affaires riche et il a même été élu député. Et Barkham Tessatine court toujours derrière la justice. Et l'État mauritanien refuse de lui octroyer la justice. Je veux dire aux auditeurs que ce cas n'est qu'un seul cas parmi des milliers d'autres cas. Et c'est des cas que nous ne lâcherons jamais jusqu'à ce que la justice soit faite.
Biram Da Abeid, ici à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, le gouvernement congolais a accusé aujourd'hui l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, de chercher à détourner l'attention de ses déboires judiciaires dans le pays en prononçant une longue diatribe contre le président Joseph Kabila. Monsieur Katumbi avait reproché au chef de l'État hier d'entretenir le flou autour de son avenir politique alors qu'il a l'obligation de rassurer sur son départ du pouvoir le 19 décembre 2016. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ces accusations sont la déclaration de condamné de justice qui cherche désespérément et maladroitement de se défendre du forfait qui lui est reproché. Au Congo-Brazzaville, le premier secrétaire de l'UPADS, la principale formation de l'opposition, Pascal Sati Mabiala, réclame la libération des prisonniers politiques avant de parler de quelconque dialogue avec le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. M. Sati Mabiala a aussi profité de sa première sortie médiatique hier depuis les joutes post-électorales pour assurer ses propres militants que l'UPADS n'avait conclu aucun accord secret avec le PCT, le parti au pouvoir. Le compte-rendu de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Après de longues semaines de silence, Pascal Sati Mabiala est revenu au devant de la scène politique. Il lui demande un dialogue avec le pouvoir pour assainir le climat politique.
Nous ne pouvons pas en même temps parler de dialogue, de trêve, si en même temps en nous, il n'y a pas l'idée d'élargir les amis, les frères, les camarades qui sont aujourd'hui embastillés, certains dans les commissariats, d'autres à la DGST et d'autres encore à la maison d'arrêt. Quelquefois sans jugement. Bien sûr, implicitement, nous demandons s'il y a un dialogue. C'est pour que ces camarades soient mis en liberté. Il n'y a aucun doute de notre part qu'ils le seront si le dialogue est convoqué. Comment pourrait-on convoquer un dialogue avec des gens qui sont en prison ? Je crois que si notre message est entendu, il va de soi que ces camarades recouvrent la liberté pour venir assister au dialogue. Du point de vue du droit, ce n'est pas à nous de juger. Et il faut que le politique prenne le dessus du judiciaire.
Pour le premier secrétaire de l'UPADS, accusé d'avoir vendu le parti de l'ancien président Pascal Issouba au PCT, il n'y a jamais eu d'accord avec ce parti au pouvoir.
Nous n'avons pas d'accord avec le PCT pour gouverner ensemble, pour nous repartir la richesse. Il n'y en a pas du tout. Mais nous avons pu donner l'apaisement.
Pascal Sati Mabiala a profité de cet échange avec les journalistes pour rassurer ses propres militants dont le comportement a entre-temps été très hostile à son égard. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. Il y a 5 ans, l'administration Obama autorisait les homosexuels à servir ouvertement dans l'armée. Aujourd'hui, c'est le tour des personnes transgenres. Gabi Dorsil.
C'est le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, qui l'a lui-même annoncé. Il n'y aura désormais plus de restrictions au recrutement des transgenres. Le seul critère, ce seront les qualifications du candidat. En 2011, le Pentagone avait ouvert la porte de la plus puissante armée du monde aux homosexuels. Il y a 5 mois, les femmes ont eu droit au poste de combat. Et après une année de préparation, M. Carter a communiqué jeudi cette décision historique. Les personnes transgenres pourront non seulement servir ouvertement dans l'armée américaine, elles auront également droit aux soins médicaux appropriés de la part du système de santé militaire. La pratique est d'ailleurs déjà en cours dans le secteur privé. Dès le 1er octobre de cette année, les militaires déjà engagés nécessitant un traitement pour changer de sexe pourront obtenir des services de santé militaire, y compris une éventuelle intervention chirurgicale, même si la mesure annoncée ce jeudi ne sera effective que l'an prochain.
Et pour terminer l'Euro 2016 de football, le pays de Galles affronte ce soir la Belgique dans le 2e quart de finale à Lille. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.